Un ancien officier d'infanterie de marine nommé Ducatel, traître encore sans emploi, rôdait, cherchant pour en avertir Versailles, les côtés faibles de la défense de Paris. Avec le peu d'hommes dont on disposait, il ne doutait pas d'en trouver. Il remarqua que la porte de Saint-Cloud était sans défense et, avec un mouchoir blanc, appela un poste de l'armée de l'ordre. Un officier de marine se présenta. Au même moment, les batteries versaillaises cessèrent le feu et, par petits pelotons, les soldats pénétrèrent dans Paris. La cessation du feu ne fut pas remarquée de suite. L'oreille s'y était si accoutumée que plusieurs semaines après la défaite, on croyait encore l'entendre. Enfin, on s'aperçut de cette cessation de feu. Quelques-uns en tiraient favorable augure, à d'autres cela semblait étrange. Réunis au Mont Valérien, messieurs Thiers, MacMahon et l'amiral Potuau télégraphiaient partout. Je vous lis un extrait d'une de leurs missives. 21 mai, 7 heures du soir. La porte de Saint-Cloud vient de s'abattre sous le feu de nos canons. Le général Douai s'y est précipité. Il entre en ce moment dans Paris avec ses troupes. Les corps des généraux Lannemiro et Clinchamp s'ébranlent pour les suivre. Signé Adolphe Thiers. 25 000 hommes de Versailles, par trahison et sans combat, couchèrent cette nuit-là dans Paris.
C'est ainsi que Louise Michel relate l'entrée de l'armée versaillaise dans Paris, le 21 mai 1871, dans le 16e arrondissement de la capitale, à un endroit où l'enceinte n'était pas gardée. 10e opus de notre chronique « Vive la Commune » à l'occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris. Un 10e opus consacré à la semaine sanglante, le massacre des communards des communards par l'armée versaillaise d'Adolphe Thiers du 21 au 28 mai 1871. La suite, Louise Michel la relate dans son livre « La Commune » au travers d'un chapitre qu'elle a intitulé « L'hécatombe ». La suite, c'est donc l'écrasement de la Commune par l'armée versaillaise. La suite, c'est la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Louise Michel évoque l'état d'esprit dans lequel se trouvait, ou plutôt dans lequel on avait mis les soldats versaillais.
On persuada aux soldats qu'ils avaient à venger leurs camarades. À ceux qui arrivaient délivrés de la captivité de Prusse, on disait que la Commune s'entendait avec les Prussiens et les crédules s'abeuvrèrent de sang dans leur rage. Afin que, comme au 18 mars, l'armée ne levât pas la crosse en l'air, on gorgea les soldats d'alcool mêlé, suivant l'ancienne recette, avec de la poudre et surtout entonnée de mensonges. À l'histoire trop vieille du mobile scié entre deux planches, on avait joint je ne sais quel autre conte aussi invraisemblable. Paris, cette ville maudite qui rêvait le bonheur de tous, où les bandits du comité central et de la commune, les monstres du comité du salut public et de la sûreté, n'aspiraient en fait qu'à donner leur vie pour le statut de tous, ne pouvait pas être compris par l'égoïsme bourgeois, plus féroce encore que l'égoïsme féodal. La race bourgeoise ne fut grande qu'un demi-siècle à peine après 89.
La mathématicienne Michèle Audin est une grande connaisseuse de la Commune. Elle a consacré un livre à la semaine sanglante. Voici comment elle résume la chronologie des fêtes.
En quelques jours, plus de 100 000 soldats entrent dans la ville. La Commune défend Paris par un réseau de barricades que les Versaillais prennent ou parfois tournent dans une inexorable avancée vers l'est. Il faut le dire, dès qu'elle est entrée dans Paris, l'armée versaillaise commence à tuer des prisonniers. À la guerre des rues s'ajoute, dans les lieux conquis, une répression féroce. Ce sont les massacres à proprement parler. Voici une brève chronologie géographique de la semaine, inspirée de la table des matières de « L'histoire de la Commune de 1871 » de Lisa Garay. Les Versaillais entrent le dimanche 21 mai après-midi. Au matin du lundi, ils ont déjà conquis une bonne partie des quartiers ouest, de la Porte Dauphine à la Porte Brancion, incluant le Champ de Mars. Lundi 22, les Versaillais continuent leur avance. Le soir, ils ont fini de conquérir le 16e, le 17e, le 8e et, sur la rive gauche, l'école militaire et les Invalides. Mardi 23. Montmartre est pris, ainsi que la gare Montparnasse. Premier massacre en bloc. Paris s'embrase. Mercredi 24. Les membres de la Commune évacue l'hôtel de ville vers la mairie du 11e. Le Panthéon est pris, la Madeleine, les Tuileries et la gare du Nord aussi. Les Versaillais fusillent les Parisiens en masse. Les fédérés fusillent 6 otages. Jeudi 25. Toute la rive gauche est aux mains des Versaillais. Mort de Delescluze, abandon de la mairie du 11e. Vendredi 26. Il ne reste à la commune que les 19e et 20e arrondissements, la moitié du 11e et la moitié du 12e. La résistance se concentre à Belleville. 48 otages sont fusillés rue Axot. Samedi 27. Tout le 20e est envahi. Le Père Lachaise est pris. Dimanche 28, la bataille finit à 11h du matin.
Ainsi, la semaine sanglante, ce sont des massacres. L'historienne Ludivine Bantini, dans son livre « La Commune au présent », s'adresse à des femmes et des hommes comme si il et elle étaient encore en vie et comme si on pouvait leur parler. Elle s'adresse ainsi à une inconnue tuée durant la semaine sanglante.
« Rien. Je ne sais rien de toi. De toi, il ne reste que l'atrocité qu'on t'a faite. Ton corps couché sur le pavé, le ventre ouvert par une affreuse blessure, pendant qu'un soldat rit, dévidant tes entrailles avec sa baïonnette. Ce qu'on vous fait subir est à peine concevable. Il faudrait remonter à la Saint-Barthélemy pour trouver quelque chose d'approchant, même s'il y eut alors beaucoup moins de morts. Une averse de fer, écrit Lissagaray, une averse de sang. Vous espérez la justice et l'égalité, on vous le fait payer très cher. Il faut que vous soyez bien redoutable aux yeux des puissants pour qu'ils vous réservent un tel sort sans reculer devant l'épouvante. Il faut qu'ils aient engrangé suffisamment de haine pour les idées que vous représentez. Suffisamment de peur aussi. J'ignore même comment tu t'appelles. Je pose sur toi quelques prénoms, Zélie, Anna, Thérèse et Marie. Puis non, je ne peux pas te donner un nom que tu ne portais pas, ni projeter sur toi un métier ou une occupation, couturière, lingère, institutrice, blanchisseuse, musicienne, cartonnière. Ta mort dans cet anonymat laisse un silence de plomb. Mais c'est à toi que je veux m'adresser, parce que sans toi, sans ton corps étendu là, sans le sourire que j'imagine dans ta vie, sans les joies que tu as pu éprouver quand tu étais pleine de jeunesse, vous ne seriez plus que des chiffres. Je peux te le confier. Avant de vous rencontrer, votre mort représentait pour moi une sorte d'abstraction, une querelle historiographique. 7 000, 10 000, 20 000? Je suis bien incapable d'entrer dans ce débat, même s'il est important. Car évidemment, vous vous tenez là, chacune et chacun, derrière ces nombres effrayants. Pour rendre sensible la réalité vraie de la semaine sanglante, il faut imaginer des cadavres à chaque carrefour et dans chaque rue. Qu'on songe à ce qu'il faut de morts pour qu'il y en ait partout dans une ville comme Paris. Écrire vos noms, si on le pouvait, prendrait environ 100 pages de ce livre. Est-ce plus concret ? Il faut surtout employer les mots bruts et nus de ce qui vous arrive. Les blessés tués par le sabre sur la civière des ambulances, les corps éventrés, mutilés, les goulots de bouteilles enfoncés dans la bouche, les cadavres humiliés par des gestes obscènes, les dépouilles entassées, les agonisants à qui on refuse le coup de grâce, les enterrés vivants. On vous tue comme ça, pour rien, pour une allure, pour une mine. Une femme à l'air pauvre, fusillée. Un homme à l'air laid, fusillée. Si l'une pleure, c'est une femelle d'insurgé, fusillée. La douleur est une preuve de complicité. Une jeune fille porte une cocarde rouge, fusillée. N'importe quel prétexte est bon pour vous faire suspecter. Mais de quoi au fond ? Souvent, seulement d'être des prolétaires, des êtres qu'on méprise, dont on réduit la vie à rien. Rue des Rosiers. Pour faire expier à des innocents la mort des deux généraux, on tue des hommes, des femmes et des enfants. À l'hôpital Saint-Antoine, on découvre le corps d'une fillette qui doit avoir 10 ans, transpercé d'un coup de baïonnette, son ruban rose toujours dans ses cheveux. À la Madeleine, 300 personnes réfugiées dans l'église sont abattues sans distinction, pas de quartier, pas de pitié. Au Panthéon, la mairie est bondée de cadavres. Le parc Monceau est transformé en centre de tuerie, parmi les plus épouvantables. Rue Rochechouart, un concierge apporte à boire à un blessé qui agonise. Pour ce geste d'humanité, il est fusillé sur le champ. Dans le jardin du Luxembourg, des hommes, des femmes et des enfants font la queue en attendant l'exécution, sans savoir encore peut-être que les balles leur sont destinées. Pour décrire les lieux des charniers, le mot est celui d'abattoir. Rue Jacob, une mère supplie qu'on ne lui prenne pas son jeune fils, un fédéré qu'on emporte quand même et qu'on tue sous ses yeux. Rue du Cardinal Lemoine, un mathématicien, Eugène André, est arrêté chez lui. On fouille ses papiers, mais « On ne trouve rien, capitaine. Fusillez-le quand même. » Ses parents regardent au balcon leur fils qu'on emmène. Il meurt là, dans la rue, également sous leurs yeux. Varlin est promené comme au supplice à travers tout Montmartre, traîné, frappé, avant d'être abattu, achevé à coups de crosse dans la rue des Rosiers, en châtiment pour ce qu'il n'a pas fait. Sur l'avenue des Champs-Élysées, un homme qui ferme ses volets est tué devant ses enfants, poumons perforés. Ses deux fils ne survivront que 2 ans à la misère de ce malheur. Toutes les scènes sont des scènes d'horreur. Le cimetière du Père-Lachaise accueille la fin de la tragédie dans une montagne de cadavres. Une extermination. Ces jours-là, il fait beau. Paris s'est réveillé dans des flots de soleil. Le bleu du ciel paraît cruel. Il est strié de nuées rouges. Une grande blouse inondée de sang, comme l'a dit Jules Vallès dans L'Insurgé.
Dans cette lettre à une inconnue, Ludivine Bontini évoque le supplice et l'assassinat d'Eugène Varlin. Eugène Varlin est un ouvrier relieur, collectiviste, coopérateur, membre de l'Internationale. Il est allé construire des syndicats en province. Il a organisé la solidarité internationale des travailleurs en grève en Europe. Il a ouvert un restaurant coopératif à Paris. C'est un féministe qui défend le travail des femmes. Il est donc assassiné durant la semaine sanglante. On écoute ce qu'en dit Prosper-Olivier Lissagaray dans son livre témoignage « Histoire de la Commune » de 1871.
Varlin, hélas, ne devait pas échapper. Le dimanche 28, place Cadet, il fut reconnu par un prêtre qui courut chercher un officier. Le lieutenant Sicre saisit Varlin, lui lia les mains derrière le dos et l'achemina vers les buttes où se tenait le général de Lavaucoupé. Par les rues escarpées de Montmartre, ce Varlin, qui avait risqué sa vie pour sauver les otages de la rue Haxo, fut traîné une grande heure. Sous la grêle des coups, sa jeune tête méditative, qui n'avait jamais eu que des pensées fraternelles, devint un hachis de chair, l'œil pendant hors de l'orbite. Quand il arriva rue des Rosiers, à l'état-major, il ne marchait plus. On le portait. On l'assit pour le fusiller. Les soldats crevèrent son cadavre à coups de crosse. Sicre vola sa montre et s'en fit une parure. Le monde des martyrs n'en a pas de plus glorieux, qu'il soit lui aussi enseveli dans le grand cœur de la classe ouvrière. Toute la vie de Varlin est un exemple. Il s'était fait tout seul par l'acharnement de la volonté, donnant le soir à l'étude les maigres heures que laisse l'atelier, apprenant non pour se pousser aux honneurs comme les Corbons, les Tolins, mais pour instruire et affranchir le peuple. Il fut le nerf des associations ouvrières de la fin de l'Empire. Infatigable, modeste, parlant très peu, toujours au moment juste, et, alors éclairant d'un mot la discussion confuse, il avait conservé le sens révolutionnaire qui s'émousse souvent chez les ouvriers instruits. Un des premiers, au 18 mars, au labeur, pendant toute la commune, il fut aux barricades jusqu'au bout. Ce mort-là est tout aux ouvriers.
Et puis, il y a les viols. Michel Audin a compilé toute une série de témoignages qui font part de ces actes barbares dont sont victimes des communardes.
Premier témoignage. Il s'agit de 66 cadavres que nous avons vus au rond-point de Colombes. 43 fédérés en tenue, sans armes, de 40 à 60 ans. 9 femmes, dont une cantinière. 2 petites filles de 7 à 9 ans, 5 garçons de 9 à 13 ans. Mais la plus jeune des femmes, costume de paysanne, vous saisissait au passage. Dans sa face convulsée, dans le désordre de ses vêtements déchirés, dans la position de son corps, on lisait le drame d'un viol. Un blessé versaillais que nous recueillîmes à 100 mètres de là et qui avait assisté à cette exécution monstrueuse nous en a révélé tous les détails, détails que nous taisons. Mais ce que nous ne saurions taire, c'est que cette exécution s'est faite sous les ordres et sous les yeux du général Douai. Deuxième témoignage. Il y eut des viols sur plusieurs points pendant les perquisitions. Les jeunes fusiliers du boulevard Voltaire s'en vantèrent devant nous. Ces brutes qui, sans raison ni prétexte, faisaient rouler sous leurs balles le premier venu dans la rue, n'en étaient pas à quelques galanteries près et, devant nous, ils en racontèrent les détails. Troisième témoignage. C'était dans l'une de ces rues que les égorgeurs dépeuplèrent presque totalement. Sous une porte cochère tout encombrée de cadavres, un groupe s'agite hurlant. Ce sont des soldats qui traînent une jeune fille de 16 à 18 ans. Elle se débat, la malheureuse. Jupons, robes et corsages volent autour d'elle, en lambeaux arrachés. Mais elle tombe enfin à bout d'effort. Et pendant qu'elle est là, gisante, pâle déjà comme une morte, un des soldats la viole avec une rage féroce, tandis que ses camarades l'excitent par mille gestes inénarrables. Le capitaine dont nous parlons, quasi mêlé à ce groupe, suivait d'un œil allumé les phases diverses de l'action. Par deux fois au moins, nous l'avons vu repousser la jeune fille qui s'était rejetée vers lui avec des yeux suppliants. Ce crime avait été commis le matin vers 9 h. Le soir, à 7 h, le cadavre de cette pauvre fille était encore à la même place, près du ruisseau, dans la rue. Témoignage 4. Dans les 8e, 9e et 1er arrondissements, les quartiers de l'ordre, où tout ce qu'on signalait comme républicain était impitoyablement passé par les arbres, toutes les femmes arrêtées dans les maisons ont été conduites à la place Vendôme, déshabillées, violées, massacrées. Ces faits, auxquels nous ne voulions pas croire et qu'on disait empruntés aux souvenirs les plus barbares d'un autre âge, l'âge des routiers et des lansquenets, nous sont attestés par un soldat de l'armée de Versailles, témoin épouvanté de ces horreurs.
Des viols, des massacres. Au final, combien de mortes et de morts durant les 72 jours de la Commune et combien de mortes et de morts durant la Semaine sanglante ? Michel Audin a compilé les archives des cimetières, cimetières parisiens et cimetières de banlieue. Elle a recensé les morts et les mortes en dehors des cimetières, ceux qui ont été jetés à l'eau dans la Seine et le canal, et partout dans Paris, les mortes et les morts enterrés hors des champs de sépulture, dans les fossés au bois de Boulogne. Et les cadavres qui ont été détruits par la chaux, le goudron et l'acide phénique, et ceux qu'on a laissés dans les carrières d'Amérique et les buts de Chaumont ou au square de la Tour Saint-Jacques. Et elle a décompté enfin les cadavres retrouvés des années plus tard dans Paris, à l'occasion de travaux de terrassement ou de creusement pour le métro. La conclusion de son livre, La Semaine sanglante, aux éditions Libertalia, est tout à fait éclairante.
Il n'est pas certain que la conclusion de cette étude puisse être un nombre. Évidemment, les 6500 morts de Ducamp sont très loin du compte, puisque rien que dans les sources officielles, rien que dans les cimetières parisiens, nous en avons compté 8500. Auxquels il faut ajouter une centaine de morts à Charonne et plus d'un millier à la chapelle Marcadet. Ainsi, nous avons, avec certitude, 10 000 morts de la Semaine sanglante inhumés dans les cimetières parisiens. Auxquels il faut ajouter ceux très nombreux emmenés à Issy et ceux des autres cimetières de banlieue, ceux de Versailles. Et les 1 000 morts en prison avant jugement, les 3 000 morts en captivité après leur condamnation. Ainsi, certainement, 15 000 morts pour la Semaine sanglante et ses suites. Mais bien sûr, il faudrait compter aussi les morts de la guerre engagée le 2 avril, les presque 1 000 du cimetière Saint-Louis, les plus de 500 du Père-Lachaise, et tous ceux que nous n'avons pu compter dans les autres cimetières. Je le savais déjà avant de commencer le travail qui a mené à l'écriture de ce livre. Le nombre de victimes ne sera sans doute jamais connu. Un de nos informateurs, le journaliste DX, le disait dès le 6 juin 1871 dans le Figaro, « Le chiffre exact ne sera jamais connu. » De tout ce que j'ai lu, il ressort surtout que les DX et ses semblables, les amis de l'ordre au pouvoir à Paris depuis le 28 mai 1971, ont tout fait justement pour que ce nombre ne soit pas connu. Ils ont tout fait pour que rien de la véridique histoire de la Commune ne soit connu, et en particulier pour que ces morts disparaissent autant que possible. Et ils ont réussi. Pas complètement, comme le montre ce livre. Au-delà des nombres, qui infirment les évaluations ridicules, les sources consultées établissent que, d'abord, il n'est pas vrai que l'on peut faire confiance aux chiffres officiels. Choix de ne pas mentionner les inconnus, oubli de compter les morts arrivés après le 30 mai et visibles dans les registres de certains cimetières, arrêt de comptabiliser les morts dans d'autres registres, falsification au Père-Lachaise. Il n'est pas vrai non plus, en particulier, que les registres contiennent toutes les inhumations dans les cimetières concernés. De même, il n'est pas vrai que la direction des cimetières a appliqué la loi. Il y a eu des corps enterrés sans cercueil, des corps enterrés peu profondément. Il n'est pas vrai non plus que tous les morts enterrés dans les rues de Paris ont été exhumés et réinhumés dans les cimetières parisiens. De nombreux morts ont été enterrés ailleurs que dans les cimetières parisiens. La vraie conclusion est qu'il reste bien des pistes de recherche ouvertes sur la façon dont sont morts, mais aussi ont vécu les communardes et les communards. Les écrivains, a dit Camus, sont au service de ceux qui subissent l'histoire. Surtout, ajouterai-je, quand, pour 72 jours d'espoir, ils cessent de la subir.
Voilà, on peut réellement estimer que Michel Audin a mené une étude implacable concernant les mortes et les morts de la Commune, et notamment de la Semaine sanglante. Notre émission se termine, c'est le 10e opus de notre chronique « Vive la Commune ». Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour l'émission de conclusion de cette chronique. On se quitte avec la Semaine sanglante du groupe Dubamix. La Semaine sanglante, c'est une des chansons les plus connues associées à la Commune avec l'International. Le texte, magnifique, est de Jean-Baptiste Clément. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bye bye.
Et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les euros même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants.
Oui, mais avant le temps, le manche des mauvais jours.
Les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par l'aventure, les complaisants, les décorés, sans le bourser de coin de rue, amants de filles au rebut, bouillent comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. Qu'on ramasse au hasard, la mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de Bourges, valets de rois et d'empereurs.
Oui, mais avant le temps, le manche des mauvais jours.
Quand comptoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir, sans passe, sans train. Sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du chômage?
Oui, mais avant le temps, le manche, les mauvais jours. Les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront.
Mettront.